des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. L'adolescence nous poursuit. Cette période de la vie dont on entend déjà parler, enfant, quand vers l'âge de 10 ans, nos parents nous regardent en soupirant, on n'est pas au bout de nos peines ou le plus dur est devant nous. Et puis nous voilà soudain plongés en plein dedans. Pas étonnant que nous, les adultes, ayons si vite associé le mot « crise » au mot « adolescence ». Et puis vient cet âge mal défini où l'adolescence a tant de mal à disparaître de nos têtes, à tel point qu'il a fallu créer encore un nouveau mot « adolescent », « adulte », « adolescent ». Et enfin, nous voilà sortis de cette adolescence, mais ce jour-là, au malheur, c'est au tour de nos propres enfants d'avoir 15 ans. L'adolescence, on n'en sort jamais. Caroline Horn monte vers le grand garçon qu'on vient de lui rendre, l'inconnu. Elle l'a souvent entendu dire « À l'adolescence, on ne les reconnaît plus. Tout ce qu'on avait appris avec eux, à refaire. Même leur visage, rien en commun. » Elle s'était préparée à voir changer le visage de David, du jour au lendemain, aux gestes brusques qui deviendraient les siens quand elle tenterait de faire durer leur tendresse, lui enfoncer son bonnet sur la tête. Après le froid, frotter ses joues et bien sûr, il repousserait ses mains. Comme les autres, il s'enfuirait. Sa disparition lui avait enlevé cela, la lente fuite ordinaire de son adolescent. Les gros mots, les fugues et les reproches comme ce chagrin auquel elle avait fait une place dès le début de la 12e année de son fils, parce qu'il avait déjà au coin de l'œil des prémices de défi et que ses jambes trop longues annonçaient la fuite. « Tu ne connaîtras jamais les éloignements nécessaires », lui avait dit la disparition de David. Certains visages se transforment lentement, rien de sensible, si on les voit tous les jours. Des joues qui se creusent à peine, des mâchoires qui affirment leur relief, mais d'autres sont sujets aux métamorphoses subites et Caroline avait toujours pressenti que son fils serait de cela, que quelque chose de lui allait s'évanouir d'un coup, comme d'une photo d'enfance. Elle pouvait dater le jour où il avait cessé d'être un bébé pour devenir un garçon, le sien. Ce texte est extrait du très joli roman d'Hélène Gaudy, Plein hiver, aux éditions Actes Sud, qui retrace avec beaucoup de sensibilité la vie d'une bande d'adolescents qui subira le terrible traumatisme de la disparition de l'un d'entre eux, ce David dont il était ici question. Cet extrait, Docteur Demichel, met tout de suite le décor de l'adolescence en place avec ce point central, c'est-à-dire la mutation. Un adolescent, c'est la première définition qui nous vient à l'esprit. C'est un être entre deux âges.
Oui, je pense que votre introduction était tout à l'heure tout à fait juste, il me semble, en inscrivant en tout cas tout ça dans une histoire. Les mutations à l'adolescence, il y en a plusieurs. On peut commencer peut-être par les énumérer. D'abord, il y a quelque chose qui se joue dans le corps. Hein, voilà, tout le monde sait que on commence d'abord à grandir. Je vais y revenir un tout petit peu, mais il y a quelque chose qui se joue dans le corps. Il y a quelque chose qui se vit aussi dans l'accès à la sexualité, hein, puisque en gros l'enfant avant, pendant la période qu'on dit de latence, c'est-à-dire en gros entre 5-6 ans et puis le début de l'adolescence, est un peu asexué. Je vais y revenir un tout petit peu après. Cette sexualité, c'est un élément aussi important, intervient dans toutes les relations, c'est-à-dire en gros, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les copains, que ce soit avec les frères et sœurs, cette dimension de l'identité sexuée, je dis bien sexuée, mais pas sexuelle, hein, sexuée est très très important. Et puis, l'adolescent, il découvre qu'il y a quelque chose qui l'agite à l'intérieur de lui-même, qui le tire, qui le pousse, et ça, on appelle ça les pulsions. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait important. Et dans ce travail-là, se fait une sorte de remaniement de l'image qu'il a de lui-même, et à partir de là, Il va donc se définir, se structurer, essentiellement à partir de la modification de son corps, de ses pulsions, de ses énergies intérieures, d'une part, et deuxièmement, par rapport à ce dont il a hérité, c'est-à-dire essentiellement l'histoire et les valeurs de ses parents, vis-à-vis desquelles il va avoir ce droit d'inventaire, il va en garder et en intérioriser certaines, et il va en rejeter, en éliminer et en critiquer d'autres.
Avant de rentrer dans le détail de ces mutations, y a-t-il une histoire de l'adolescence? C'est-à-dire, est-ce que les adolescents d'aujourd'hui, du XXIe siècle, sont les mêmes qu'il y a 40 ans, qui sont les mêmes qu'il y a 100 ans? On a l'impression que ça... c'est comme si on avait l'impression que l'histoire de l'adolescence commençait un peu dans les années 60. Oui. C'est ça que j'ai dans l'esprit. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Oui, non, je crois que vous avez tout à fait raison. On peut partir du fait que pendant très très longtemps, dans une société où il y avait essentiellement des agriculteurs, à partir du moment où le garçon était capable d'aller au champ, il sortait de la période de l'enfance et en gros, il allait travailler au champ.
Très vite d'ailleurs.
Très vite,
12
voilà.
ans, enfin même très peut-être plus tôt. Ouais,
voilà, ouais. Peut-être je ne suis pas très compétent pour vous répondre, mais en tout cas de cet ordre-là. Et puis la fille, elle, qui avait en général d'ailleurs ses premières règles beaucoup plus tôt que maintenant, dès qu'elle était à même d'accomplir son travail avec le contenu culturel du travail de la femme à cette époque-là, eh bien elle aidait sa mère dans un premier temps en s'occupant des enfants qui suivaient, par exemple, ou des enfants des voisins. Elle remplissait en tout cas sa fonction maternelle. Et donc, elle passait assez rapidement du statut de petite fille à petite femme, on pourrait dire. Puis ensuite, elle avait un conjoint, elle avait des enfants et l'histoire reprenait.
Donc, pourtant, excusez-moi de vous interrompre, il y avait bien des rites de passage entre l'enfance et l'âge adulte. Ça a toujours existé dans énormément de sociétés. Est-ce que ça correspond à cette période de l'adolescence, on pourrait dire ?
Les rites de passage, je pense qu'ils étaient, en tout cas peut-être dans les sociétés moyenâgeuses, assez brefs, hein, probablement. Le fait de devenir travailleur de la terre et le fait d'avoir son premier enfant, par exemple, pour les femmes, ça tenait lieu, à mon avis, de rites de passage. Donc je suis pas sûr qu'il y ait, si on entend par rite quelque chose qui viendrait assurer une continuité et permettre un passage, je suis pas sûr qu'il y ait eu énormément de choses... voilà, mais je suis pas assez compétent sur en particulier la société du Moyen-Âge pour répondre. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est ces passages automatiques, essentiellement conditionnés par le travail, hein, le passage au travail, n'ont plus suffi à un certain moment. Et les premières études sur l'adolescence sont parues quand même au début du XXe siècle, donc un petit peu avant la période que vous évoquiez. On y parlait de crise et surtout on commençait à dire que les adolescents, cette période-là en tout cas, remettaient en question les valeurs parentales. Voilà, donc on a, pour reprendre le mot que vous disiez en introduction, on a parlé de crise, voilà, il se passait quelque chose, ces jeunes remettaient en cause les us, les coutumes, les habitudes, les institutions sociales, en particulier les institutions scolaires. Et puis, bien évidemment, comme vous l'avez dit, dans les années 60, il y a eu un grand mouvement où il s'agissait, pour faire court un petit peu, il faut tuer le père, hein, quoi. Le père qui était le représentant et le garant d'une institution perçue comme sclérosée, enfermante, et où il s'agissait de rentrer dans le moule, point, c'est tout. Alors, je crois que la revendication des adolescents contemporains ne me paraît pas actuellement tellement marqué par cette révolte contre le père. On a déjà eu, à l'occasion d'émissions précédentes, on a évoqué le fait que dans notre société, la question du père a profondément bougé. Pendant très très longtemps, le père représentait l'autorité, la violence, le potentiel en tout cas, le savoir, on ne le discutait pas. Et voilà, il suffisait que le père le parle pour qu'on obéisse, point, c'est tout. Actuellement, les pères traversent une période de crise profonde, avec bien évidemment une remise en question de ce modèle abusif, on pourrait dire, en tout cas subjectivement perçu comme tel.
Mais que eux-mêmes, en tant qu'ados, ont contribué à faire effondrer quelque part, les pères d'aujourd'hui en tout cas.
Oui, oui. Oui, quand on regarde hein, les pères qui ont 30-40 ans, en effet, ont largement vécu ça. Mais ceux qui sont, comme moi par exemple, plutôt de l'âge des grands-pères, donc qui ont 20 ans de plus, ils étaient déjà quand même dans cette période-là. Hein. Moi, j'étais adolescent pendant les années 68. Hein, donc 68-70, c'est vraiment les périodes où on a remis un petit peu tout en question. Donc actuellement, la question, elle est plutôt d'une très très grande présence de la mère qui a cette quadruple activité, on pourrait dire, cette quadruple identité. Premièrement, sa fonction de mère. Deuxièmement, une polarité masculine dans l'éducation et l'autorité. Une polarité masculine aussi, mais dans le sens de l'archétype du masculin, ça n'a rien à voir avec les hommes, dans le fait qu'elle a souvent une activité professionnelle. Qu'elle a une identité propre, c'est-à-dire elle a souvent son espace privilégié, c'est-à-dire son espace où elle est ni mère, ni compagne, ni femme au travail. Elle a sa propre identité relationnelle, sa vie associative, le fait qu'elle fait du sport ou je sais pas trop quoi, ou de la peinture ou de la poésie ou autre chose. Hein. Et voilà, donc elle a récupéré l'ombre terrifiante d'un patriarcat abusif pendant, je sais pas, 3, 4, 5, 6, 7 000 ans, peut-être, on pourrait dire. Voilà, c'est peut-être plus ancien. En tout cas, peut-être au moins depuis 10 000 ans, si on parle du début du néolithique, ou 9 000 ans. Et elle est probablement dans une forme de plénitude. Les pères, actuellement, ils sont en train, je pense, de revendiquer, de réhabiter et de se laisser prendre par la fonction maternelle, auquel en gros ils n'avaient pas droit. Hein. Les femmes disaient, toi c'est le boulot, et puis moi c'est les enfants. Et très très souvent, avec ma femme, souvent on fait ça quand on se promène dans Chartres, on regarde les petits bébés et c'est très très frappant de voir que les petits, les nourrissons, les nouveau-nés sont très très souvent portés par leur père, hein, voilà, par leur papa dans le sens de la fonction. Donc il y a cette mutation.
Et à cela s'ajoute la mutation de la société qui forcément va influencer sur les ados, c'est-à-dire vite fait le stress, la pression, la situation économique, peut-être aussi les apparitions des drogues.
Oui, alors y aurait beaucoup de choses. Je pense qu'on aura l'occasion de reprendre ça. C'est vrai que cette période de l'adolescence, hein, et vous avez rappelé ce mot de adolescence, hein, qui mélange adulte et puis adolescent, est une période qui tend à s'étirer de plus en plus. Hein. Personnellement, moi, j'appelle adolescence un temps qui est marqué par un début et une fin. Le début, en général, est relativement clair à repérer. C'est ce qui se passe dans le corps. Hein. Dans le corps, c'est-à-dire essentiellement la croissance. On peut rappeler pour nos auditeurs que, en gros, pendant toute son enfance, on prend 5 cm par an pour faire court. Hein. C'est beaucoup plus quand on est tout petit les premiers mois. Mais après, on prend en gros 5 cm par an. Et pendant l'adolescence, on peut quasi en un an en prendre 15. Donc c'est multiplié par 3. Hein. Pour se rappeler, 12 cm par an, ça fait 1 cm par mois. Et donc ça fait 2,5 mm par semaine. Vous voyez, 2,5 mm, vous vous rendez compte, c'est visible, on sait ce que c'est. Donc par semaine, vous avez votre adolescent qui grandit. Vous le voyez, et puis lui, il voit bien qu'il grandit. Et en gros, tous les 3 mois, il dit à sa mère que le pantalon, qu'il soit garçon ou fille, est trop court, que les chaussures, ça convient pas, et puis voilà. Donc, premier temps, le début de l'adolescence, c'est la mutation dans le corps essentiellement. Pour les filles, essentiellement l'apparition des seins, la surélévation des mamelons. Il y a en gros 2 ans entre ce début-là et puis les premières règles, à peu près. Donc, c'est ce temps-là de grande, grande mutation. Et pour les garçons, la pilosité, l'augmentation de la longueur du sexe. Ça, c'est le début de l'adolescence. La fin de l'adolescence, à mon avis, elle est bien évidemment plus difficile à repérer, et elle me paraît caractérisée par le fait que l'adolescent change de groupe, c'est-à-dire il s'inscrit dans un lien de couple. 3 grandes étapes, la première qui est l'enfance, où l'individu est attaché à sa famille, deuxième temps de l'adolescence où il est en gros attaché au groupe, ce sont les copains, c'est fondamental ça, c'est vraiment le repérage. Peut-être je vais y revenir un peu après. Et le troisième temps, c'est le temps de la vie adulte, où là, normalement, c'est le couple qui prend le relais.
Il en trouvait parfois deux ou trois au matin, serrés sur le même canapé, bouche ouverte, mains pendant dans le vide. Ils ramenaient la couverture sur leur corps, une armée fourbue, défaite. Cette image toujours lui revenait. Ses enfants fomentaient quelque chose. Ils étaient en guerre. Et ils se tapaient la tête contre les murs et venaient chez lui pour le faire. Entre eux, les lignes bougeaient en permanence. Plus si sûr que David mène la danse, juste se détacher de son jumeau comme d'une peau trop étroite. Contre David, de plus en plus, il se dressait. Leur affrontement, d'autant plus acharné qu'il n'y avait pas d'enjeu. Il n'avait rien à gagner que l'ascendant minuscule qu'ils pouvaient prendre l'un sur l'autre. David, aussi fin, noueux, insaisissable que Jude était d'un bloc, opaque, dur, les lèvres poussées en avant par la langue comme s'il était toujours en train de sucer quelque chose, une pastille, une allumette, un cure-dent, qui surgissait parfois de sa bouche close. Avaleur de sabre, expert en soufflette, rude et blanc et taiseux. Tom et Sam comme de nouveaux jumeaux, plus timides, plus pâles, qui suivaient sans rien dire, juchés sur un manège dont ils ne pouvaient plus descendre. Et la fille, Prudence, que Prince avait un jour trouvée en larmes dans les toilettes, cachant le sang entre ses jambes. « Je veux rester comme les garçons. » Ça lui donnait le tournis à Prince, la vitesse à laquelle il changeait et changeait les rôles, le rouge de sa bouche à Prudence. Quelques jours après les larmes, les deux petits jumeaux qui en venaient au point sont « Tarés ces gosses, disait Prince. C'est les hormones peut-être, ou alors c'est la ville. Ils étouffent, ils se cognent, savent plus quoi inventer. » Tumultueux, disharmonieux, plein d'énergie et puis soudain complètement vidé. C'était un autre extrait du livre d'Hélène Gaudy, jeune romancière d'à peine 35 ans, peut-être pas tout à fait sortie de l'adolescence ou en tout cas très proche de l'adolescence, qui retrace donc la vie d'une bande d'adolescents dans son livre Plein hiver paru chez Actes Sud. Docteur Desmichel, alors la grande question de l'adolescence, on l'avait abordée en première partie de cette émission, c'est la sexualité.
Voilà, donc pour revenir un tout petit peu en arrière, la question de la sexualité, il faut bien l'entendre en termes d'identité sexuée. Hein, c'est-à-dire, la sexualité, ça n'est pas la génitalité. Hein. La génitalité, c'est la relation sexuelle dans sa dimension charnelle, par exemple, mais l'identité sexuée est quelque chose qui est très fondamental dans l'existence. C'est-à-dire, en gros, probablement la très très grande majorité de nos relations entre deux personnes, des relations entre deux personnes, est marquée par l'identité sexuée de chacun. C'est-à-dire le fait que vous soyez un homme détermine mon attitude vis-à-vis de vous, et inversement, si vous étiez une femme ou si j'étais une femme, probablement les relations seraient changées, elles seraient modifiées avec des aspects différents dans l'échange, avec des éléments positifs, des éléments plus ombrageux, voilà. Donc, dans l'enfance, en gros, il y a une période importante qui est autour de 5-6 ans chez l'enfant, où lui, il découvre quelque chose d'une identité sexuée chez lui, il la revendique en général de manière puissante, c'est-à-dire, en gros, le petit garçon devient amoureux parce que c'est une relation qui se joue dans les sentiments, il n'y a pas de... le corps n'intervient en gros quasi pas, quand bien même il peut se manifester, mais le plus souvent il n'intervient pas. Le petit garçon devient amoureux de sa mère, en tout cas chez les enfants qui vont être hétérosexuels. La petite fille devient amoureuse de son père. Cette période dure quelques mois ou un petit peu plus. Et puis ensuite, on rentre dans ce que les psychologues appellent la période de latence. Je vais simplifier un tout petit peu. Et en gros, pendant cette période de latence, les garçons et les filles sont complètement séparés. Hein. Les garçons ignorent complètement les filles, ça les intéresse absolument pas. En gros, ils savent pas ce que c'est, ou en tout cas, les filles, ça les agace, pour ne pas dire plus. Les filles se foutent complètement des garçons, ça les attire pas du tout, et en gros, les garçons, c'est plutôt des casse-pieds qui viennent les embêter. Donc, les relations sont plutôt un petit peu conflictuelles, ou quand elles sont pas conflictuelles, c'est juste parce qu'elles sont séparées. Hein. Et il y a d'ailleurs des gens qui se sont intéressés beaucoup à la pédagogie et qui ont dit que peut-être pendant cette période, ça pourrait être assez utile que finalement les garçons soient dans des classes de garçons, les filles dans des classes de filles. Je n'ai pas beaucoup de compétences pour répondre là-dessus, mais en fait, ce sont en gros deux mondes qui s'ignorent ou qui se... Je dirais pas qu'ils se détestent, mais on s'agace mutuellement, quoi.
Reste qu'en famille, frères et sœurs, là, on est obligé de cohabiter, et ça apprend énormément, j'ai l'impression, aux frères sur les filles et aux filles sur les garçons de manière naturelle.
Oui, sauf que dans une famille, il y a une différence particulière, c'est qu'il y a une différence d'âge. Quand il s'agit de frères et sœurs, c'est-à-dire il y a au moins un an d'écart, en gros, et parfois il y en a deux ou trois ou plus. Donc le grand frère ou la grande sœur, le petit frère et la petite sœur ont cette différence qui vient interagir beaucoup. Là, ce que j'évoquais, c'était plutôt au niveau de la même classe d'âge ou la même classe tout court, on pourrait dire. Où là, voilà, les filles jouent ensemble dans la cour de récréation, ont des activités de filles le mercredi ou le week-end, et les garçons, pareil de leur côté.
Mais un enfant qui a trois grandes sœurs, un garçon qui a trois grandes sœurs, moi j'ai quand même le sentiment que sa relation à l'adolescence avec fille va être totalement différente qu'un garçon qui est avec 4-3 grands frères et puis qui est entre mâles pendant toute son enfance. J'ai m'a semblé remarquer ça.
Vous avez probablement raison, en sachant que ce qui est quand même le plus déterminant, c'est ce qui se passe à un niveau inconscient dans le déploiement des polarités. J'ai envie de dire archétypique, je vais redire un petit peu ce que ça veut dire, des polarités masculines et féminines dans la famille. Donc, ça n'est pas parce que dans cette famille, il y a une, deux ou trois sœurs aînées et un petit dernier, que le petit dernier est en risque, si je caricature un peu vos propos, est en risque de féminisation, par exemple. Ça n'est pas parce que ce petit dernier, fille, a trois frères aînés qui tous les trois jouent au rugby et montrent leurs gros muscles, qu'elle risque de perdre quelque chose de son féminin.
Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais par contre, on a l'impression que sa relation avec les filles va être plus facile parce qu'il va mieux les comprendre, c'est ça quoi. Il va comprendre leur code, il va comprendre peut-être moins de timidité. Enfin, je sais pas si c'est une généralité. Hein,
je pense en tout cas que avoir un frère ou une fille, un frère ou une sœur, quand on est un garçon ou une fille, c'est en effet un très bon apprentissage. Hein. En tout cas, un apprentissage dans la dimension sociale. Hein. Dans la dimension psychique, c'est plus compliqué. D'accord. Parce que j'aurais tendance à penser que ça se joue beaucoup plus avec le masculin et le féminin des parents. Hein. C'est-à-dire, pour le petit garçon ou la petite fille, comment il a une relation inconsciente, profonde, mais très très vive et très déterminante dans ce qui se joue à l'intérieur de lui-même, avec la partie masculine de son père, en gros avec la virilité de son père, avec la partie féminine de son père, c'est-à-dire ce que son père déploie du côté de son intuition, de sa sensibilité, de son émotion, de sa capacité à entrer en relation, ça c'est très déterminant pour le garçon. Idem pour ce garçon vis-à-vis de sa mère, c'est-à-dire dans la partie féminine, la féminité de sa mère, mais aussi la partie masculine de sa mère. Et pour la petite fille, c'est la même chose, elle va structurer et construire sa part masculine et sa part féminine, essentiellement dans le rapport inconscient avec son père et avec sa mère. Et en particulier, je dis pour ces deux, le garçon et la petite fille, dans la formation de l'image intérieure pour la petite fille du prince charmant, pour le petit garçon de la Belle au bois dormant.
Est-ce que c'est là qu'on parle d'archétype en psychologie ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ?
Oui, alors ici, l'archétype, en fait, c'est une sorte de modalité de développement à l'intérieur d'un individu qui va, à un certain moment, être activé par la vie réelle. Vous allez me dire, vous pouvez reprendre parce que j'ai rien compris. Je vous donne un exemple simple, c'est l'informatique. Vous achetez un ordinateur, dans votre ordinateur, il y a votre système d'exploitation, et puis vous avez acheté des logiciels qui sont installés dans votre ordinateur. Vous avez par exemple un logiciel de traitement de texte. Mais ce logiciel, il est là, et tant que vous n'avez rien mis dedans, il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de tableur. Voilà. En gros, ces archétypes, ils sont livrés avec le disque dur probablement à notre naissance. Et puis au fur et à mesure, ils vont se structurer et devenir et avoir un contenu vivant qui se remplit, s'emplit, se structure à partir de nos expériences. Hein, voilà. Donc, puisque vous évoquiez au début, tout à l'heure, la question de la sexualité, à ce moment-là, il y a la figure de l'autre, hein, qui est fondamentale. C'est-à-dire, pour le garçon, sa belle oie dormant, pour la fille, son prince charmant. Hein. Et cette structuration renvoie un logiciel qui est déjà présent, qui a été un tout petit peu activé quand il avait 5 ou 6 ans, on va dire pour l'hétérosexuel, la petite fille avec son papa, le petit garçon avec sa maman. Mais là, bien évidemment, il va se réactiver avec les mutations du corps, l'espace pulsionnel, les hormones qui vous en mettent plein le sang, plein la tête, plein les yeux, plein le cœur, plein le désir, plein la sexualité, plein le corps sexué et tout ça. Donc voilà, tout ça, ça s'active. Donc à partir de ces logiciels archétypiques qui sont à l'intérieur, il y a quelque chose qui devient plus vivant.
Alors, si j'ai bien compris, donc l'adolescent se découvre un corps sexué. Vous avez bien fait la différence avec l'expérience sexuelle.
Oui.
Et pourtant, c'est à l'adolescence qu'on vit ces premières expériences-là. C'est aussi quelque chose de fondamental pour l'adolescent.
Je ne suis pas sûr. Parce que ici, il faut différencier deux choses. Il faut différencier la relation sexuelle et la relation sexuée. Pour moi, et je me place d'un point de vue psychologique, il n'y a pas de sexualité autre que relationnelle. C'est-à-dire la sexualité, c'est une sexualité de la relation. Il peut y avoir une génitalité. Un pénis peut rentrer dans un vagin. Voilà. Mais ça ne fait pas une sexualité. Ça ne fait pas une relation sexuelle. Ça fait du génital, voilà, on pourrait dire. Mais il me semble que la relation sexuelle, je parle d'un point de vue psychique, hein, je ne fais pas de la morale ici. Hein. La relation sexuelle, c'est une relation avec un autre. Voilà, donc ça nécessite qu'à l'intérieur de soi, il y ait une identité sexuée qui soit relativement claire et qu'on ait fait l'expérience que chez l'autre, eh ben l'autre, justement, il est autre et il est dans son corps pas fait pareil, il est dans son désir pas fait pareil, dans ses attentes pas fait pareil et que cette sexualité relationnelle va se faire difficilement et douloureusement.
C'est donc l'expérimentation de cette relation que l'on fait pendant l'adolescence qui provoque parfois des frictions.
Voilà, et je pense d'ailleurs que énormément de gens, garçons ou filles, peut-être on voit plus ça chez les garçons, qui multiplient les expériences de relations génitales, c'est-à-dire de relations sexuelles, le font parce qu'ils sont dans une très très grande difficulté à avoir une vraie relation sexuelle, dans le sens d'une sexualité relationnelle. Hein. Voilà, donc, si pour nos auditeurs, vous avez vos adolescents qui multiplient les relations, vous avez le droit d'en penser plein de choses sur le plan moral, ou je ne sais pas trop quoi, que ça ne se fait pas, mais pensez-le en termes beaucoup plus de souffrance, c'est-à-dire de difficulté à mettre en scène une relation sexuée, c'est-à-dire une véritable sexualité relationnelle. Hein. Ce qui vaut, c'est la relation entre un homme et une femme. C'est pour ça que la relation sexuelle, dans le sens génital, elle est beaucoup moins importante à cet âge qu'on ne le pense, en tout cas beaucoup moins importante que la relation. C'est être amoureux qui est important. C'est être amoureux qui est important. Voilà. Et le garçon qui multiplie les conquêtes, il peut impressionner, peut-être, mais il est le plus souvent en souffrance, parce qu'il est dans une difficulté à être amoureux. La fille qui multiplie les conquêtes, quand bien même ça va juste avec un petit baiser dans le cou ou sur la bouche comme ça, qui multiplie les conquêtes, bien évidemment, elle peut dire à ses copines que, voilà, Pierre, Paul ou Jacques, sont à ses pieds, mais le plus souvent, elle est dans une difficulté à être amoureuse. Donc, il ne s'agit pas d'un rapport à une sexualité objet, mais d'une relation à l'autre. Et ça, c'est quand même compliqué. Hein.
Des mots pour le dire, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour continuer à explorer ce monde de l'adolescence.